Libres échanges.
Animé par Olivier Lostis
et Gabriel Seban.
Libres échanges au-delà des frontières de chacun.
Pour interroger l'évolution de notre société, des points de vue, des interrogations pour un vivre ensemble autrement.
Alors on vit tous les jours comme si on était immortel, s'interroger en conscience sur une fin programmée, au carrefour du droit, des volontés et de la médecine, chacun est amené à prendre position sur sa fin de vie. Si demain est différent, au point d'apporter trop de souffrance par la maladie, le choix de la personne de ne plus prolonger son existence a-t-il du sens socialement ?
Avec nous pour en parler aujourd'hui, Noël Châtelet. Il faudrait une émission pour la présenter intégralement, mais on va dire d'abord et avant tout auteur, bien sûr auteur de beaucoup de livres, dont deux en particulier qui concernent l'émission d'aujourd'hui, La dernière leçon et Suite à la dernière leçon qui vient de paraître. La dernière leçon a d'ailleurs donné lieu à un film également. Militante autour des questions de la fin de vie. Et beaucoup d'autres choses encore, en compagnie de Dominique Desmichel, médecin généraliste, psychanalyste, aujourd'hui au service de traitement de la douleur ici à Chartres, et qui a longtemps enseigné les questions de soins palliatifs également.
Cette question de fin de vie est une question qui nous met en relation directe avec la mort. Alors, est-ce que la mort est quelque chose qu'on approche avec une possible sérénité? Dominique.
Je pense que toutes les circonstances sont possibles. C'est-à-dire que, vous savez, il y a cette parole-là qui de temps en temps ressemble à un cliché, c'est-à-dire on meurt comme on a vécu. Je crois que dans certaines circonstances, c'est juste, c'est-à-dire il y a dans ce temps de la vie comme une sorte d'accomplissement, comme une sorte de mise en scène qui résume quelque chose d'un rapport à l'existence. Et puis de temps en temps, on peut se rappeler le dialogue des Carmélites, hein, par exemple, on peut aussi arriver dans le moment du mourir dans une confrontation avec la mort où soit la douleur dans le sens physique, soit la souffrance dans le sens psychique, social ou bien évidemment spirituel entraîne une angoisse existentielle extrêmement, extrêmement importante. Et je m'empresse de dire que cette angoisse existentielle n'a pas valeur de témoin en tant qu'il serait plus juste ou on aurait plus de valeur quand on meurt sereinement. Voilà, l'angoisse c'est l'aiguillon de la vie, c'est ce qui nous interroge sur le sens de notre existence, donc toujours derrière sur est-ce que la vie a du sens, est-ce que la mort a du sens, est-ce qu'il y a quelque chose après la mort, et que, voilà, probablement on est confronté au mourir, personne ne sait comment on sera quand on arrivera dans ce temps-là, et il me semble que ça viendra par surprise. J'ai accompagné, moi, de nombreuses années des personnes qui allait mourir et j'ai rencontré toutes les situations.
Donc en fait, la sérénité ne vous paraît pas une nécessité. C'est un point d'amélioration, si je peux dire, de la conception de vie, mais on peut en faire abstraction.
Moi, je ne dirais pas que la sérénité témoigne de quelque chose. J'espère que mes proches, j'espère que moi-même, que nous pourrons tous mourir dans une forme de sérénité. Mais si ça n'arrive pas, voilà, peut-être je peux juste le regretter, mais je ne le mettrai pas comme une sorte de critère existentiel ou d'obligation.
Alors, Noël Châtelet, justement, à propos de cette question de la mort, vous avez, dans la dernière leçon, le film, ensuite le livre, suite à une dernière leçon, exploré la mort d'une très proche, la mort de votre
ma
mère.
Ma propre mère.
Voilà. Oui. Alors, avec, vous le dites dans vos écrits, avec de l'angoisse panique, mais avec aussi de la sérénité, avec différentes étapes. En tout cas, est-ce que la mort d'une très proche personne, comme ça, est la seule expérience de la mort qu'on peut avoir? Comment vit-on ça?
Sans doute pas la seule, mais elle est essentielle. Et on apprend la mort, je pense, avec ceux qui nous quittent. Mmh. Ceux qui vont partir, ceux qui sont partis, et ceux qui partiront. Et le mot apprendre est apprendre justement au sens le plus fort du mot. Hein. C'est, vous disiez en début d'émission qu'on faisait comme si on n'allait pas mourir. C'est bien ça le problème. Je pense qu'il faut faire comme si on allait mourir. Ce qui ne veut pas dire vivre dans la morbidité et dans l'obsession de la mort. Mais être préparé depuis l'enfance, je dirais, très en amont, à cette exigence, cette fatalité de l'être humain. Et si j'ai voulu écrire la dernière leçon, c'est-à-dire au fond écrire d'ailleurs avec l'accord de ma mère, parce que c'est un livre que nous avons décidé ensemble quelques jours avant sa mort, c'est que moi-même j'ai fait un travail grâce à elle dans l'apprentissage de la mort. J'étais, comme toutes les petites filles, terrorisée à l'idée de la défusion avec ma mère. Nous étions dans une relation extrêmement proche, depuis toujours, dans un dialogue mère-fille extraordinaire, qui ne s'est jamais d'ailleurs arrêté. Et elle nous prévenait depuis très longtemps de son désir de partir le jour où elle l'aurait choisi. Et cette idée me terrifiait, évidemment. Et au moment où la date est arrivée, effectivement, c'était plus que de la terreur, c'était du rejet même. Voilà. Et je suis passée, grâce à elle, par tous les mouvements de l'âme qui nous saisit par rapport à cette mort annoncée. Alors, c'était la peur qui était là, d'abord. D'où l'apprentissage nécessaire. D'où la nécessité, très tôt, de parler de la mort comme on parle de la vie, c'est-à-dire de l'inscrire dans le cycle de la vie, dans un mouvement de vie. Et ce qui a été extraordinaire dans la leçon de ma mère, c'est qu'elle m'a fait vivre sa mort comme un dernier acte de vie. C'est pour ça que c'est...
Ça n'appartient qu'à l'autre, quoi.
Oui, oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement à porter sur la manière dont on est capable d'affronter la mort quand on l'affronte. Mais en l'occurrence, comme ma mère avait choisi de partir et qu'elle était préparée, elle, sereinement, à cette décision depuis 25 ans, et que j'avais peur, elle a fait... ce que fait une mère quand elle est une vraie mère, et sans doute elle l'a fait aussi parce qu'elle était sage-femme. Elle m'a mise au travail de la mort. C'est-à-dire qu'elle m'a prise par la main, et pendant les 3 mois du compte à rebours de la mort annoncée, elle m'a, jour après jour, comme une école, comme dans une école, comme une écolière à l'école de la mort, fait tourner les pages de la fin de vie. Et grâce à cela, elle a conjuré ma peur. Elle a conjuré ma peur, et au bout de ces 3 mois, j'étais prête, d'une certaine manière. Et je ne pensais pas l'être, mais j'étais prête. Et son principe, et il faut le dire tout de suite, c'est assez extraordinaire, il n'y a qu'une sage-femme pour penser à une chose pareille, c'était de me faire faire quotidiennement, avec elle, le rituel de deuil qui d'habitude s'accomplit après, sans la personne aimée. Et ça a magnifiquement fonctionné avec moi. Et c'est parce que je me suis sentie un peu miraculée, pour plein de guillemets, après cette expérience, puisque elle est partie, je n'ai pas pleuré, jamais. J'ai de l'émotion en pensant à elle, mais je n'ai pas pleuré sa mort. J'ai eu envie, effectivement, de raconter ça, non pas pour en faire une leçon, au sens ex cathedra du mot, mais pour le partager avec tous ceux, toutes celles que la mort effraie.
Oui, vous parliez d'une peur. Est-ce que vous pouvez préciser en quoi elle consistait, cette peur? Parce qu'on pourrait penser que c'était une perte qui pouvait générer une souffrance. Mais une peur, en quoi? Quel était le fondement de cette peur?
Je pense que la peur de la mort est en nous, en chacun de nous.
Même quand on voit l'autre?
Oui, tout à fait, surtout quand on voit l'autre. Parce que la peur de l'autre est d'une certaine manière notre mort en pointillé. La mort de l'autre est notre mort en pointillé, c'est ça que je veux dire.
Je crois qu'il y a... Enfin, moi, j'aime beaucoup, hein, vraiment, quand vous dites apprendre à partir de la mort de l'autre. Ça, je crois que c'est très important. Et vraiment, j'ai envie de dire ça à nos auditeurs, c'est-à-dire, vraiment, si dans votre entourage, dans vos proches, vous pouvez éventuellement... prendre langage, prendre présence, prendre écoute avec ceux que vous aimez et qui vont mourir, vous allez apprendre quelque chose de la vie. Donc je crois que ça, c'est vraiment tout à fait important. Par rapport à cette dimension du côté de la peur, j'aurais envie de revenir sur trois notions qui sont importantes, c'est-à-dire la peur, l'anxiété et l'angoisse. C'est trois choses qui sont différentes. La peur, ça renvoie à quelque chose qui est objectif. J'ai peur parce que je suis sur un arbre au milieu de la nuit, je n'ai pas de lumière et il y a une dizaine de loups qui sont en bas et qui n'ont pas mangé depuis 15 jours. Si je n'ai pas peur, c'est problématique, il vaut mieux que j'aille consulter quand on m'aura sorti de là. La deuxième chose, c'est l'anxiété. L'anxiété renvoie à l'imaginaire. C'est-à-dire, mes enfants étaient à la maison ce soir, ils sont rentrés, il était minuit, tout le monde était fatigué, il y avait de l'eau partout et je commence à me faire tout un film derrière. Et de ce film-là, je commence à avoir une peur. Ce n'est pas nécessairement une peur objective parce que mes enfants conduisent bien, il n'y a pas de problème, mais il y a quelque chose autour de l'imaginaire. Et dans cet imaginaire, évidemment, ça renvoie à ce que vous disiez, madame, autour de mon propre imaginaire par rapport à mon propre mourir. Pour mon propre mourir, j'insiste bien sur le mourir, pas sur la mort. Et puis la troisième chose, c'est l'angoisse. L'angoisse qui tient au fait que si d'un seul coup, là, dans ce studio, les lumières s'éteignent, en gros, on ne va pas avoir trop peur parce qu'on connaît le contenu, on connaît l'espace, on connaît les gens, on connaît les rites, on connaît plein de choses. Par rapport à la mort, on ne connaît rien du tout. Donc c'est bien important de se dire que quand bien même on va pouvoir écouter et probablement apprendre de ceux qui vivent ce mourir, il restera toujours quelque chose de cette angoisse qui renvoie au fait que la mort, c'est l'irreprésentable par excellence, hein, que on ne sait absolument rien de ce qu'est la mort, sauf qu'on sait que c'est consubstantiel à l'existence, consubstantiel à la vie et consubstantiel à la question du sens.
Et alors du coup, d'où vient cette souffrance ?
Moi, je crois que cette souffrance, elle vient de ces trois éléments. Par exemple, je pense que toutes les réflexions de cette année-là et de l'année qui précède autour de la loi sur la fin de vie tiennent au fait que les gens, ils ont très très peur de souffrir, dans le sens d'une souffrance réelle, concrète, mais ils ont très peur aussi de ne pas être accompagné, d'avoir une souffrance psychique, d'être délaissé ou qu'on les considère comme des objets dans le cadre d'un acharnement thérapeutique ou je dirais plutôt d'un excès de soins. Donc vous voyez qu'on retrouve là-dedans la peur par rapport à « j'ai mal » ou « j'ai connu ma grand-mère qui est morte dans d'atroces souffrances ». Ça, c'est une peur objective, hein, qui peut se transmettre avec tous les excès qui ont existé pendant très longtemps. Par rapport à cet imaginaire, donc du côté de l'anxiété, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Moi, je me souviens avoir eu plusieurs fois des patients qui me demandaient « Mais docteur, vous qui savez, je sais que vous savez des choses, comment ça se passe quand on meurt ?» Voilà, comment ça se passe quand on meurt, hein? Et puis, il y aura toujours ce fond d'angoisse qui est la confrontation à l'irreprésentable et l'inimaginable. C'est-à-dire, on ne peut même pas mettre la moindre image sur ce que c'est qu'être mort. Être mort, ça ne veut rien dire, parce que pour être mort, il faut être. Or, quand on est mort, on n'est plus dans le sens de exister, c'est-à-dire être en dehors de quelque chose.
Je voudrais revenir sur ce que disait Dominique à propos de l'imaginaire. Parce que c'est l'idée de la mort aussi qui fait peur. Mmh. Et le fantasme de la mort est parfois plus effrayant que la mort elle-même. Et à chaque fois que j'ai dû approcher la mort réelle, et je l'ai fait deux fois dans ma vie, une fois avec mon propre mari, François Châtelet, il y a de ça 30 ans maintenant, puis avec ma mère, eh bien, la réalité de la mort est incroyablement simple, est toujours plus comment dire,
elle fait
s'effondrer voilà. Tous ces monstres, tous ces qu'on a imaginé derrière la mort, elle est d'une simplicité
la mort,
étonnante.
La belle affaire, hein. On meurt.
Et alors c'est pour ça que en me faisant faire des gestes réels, pratiques. Dans ce rituel de deuil dont je parlais tout à l'heure, comme d'écrire avec elle les lettres que nous devions envoyer après sa mort. Des choses comme ça, qui sont absolument inouïes. Comme de me parler de la chemise de nuit qu'elle allait porter pour partir. C'est d'ailleurs cette scène-là de la chemise de nuit qui a déterminé l'écriture de la dernière leçon. Eh bien, tout à coup, cette simplicité, ce passage au réel était exorcisant de la peur, totalement, exorcisant de la peur. Et cette scène de la chemise de nuit, j'ai envie de la rappeler parce qu'elle est si belle, quoi. Elle est fondatrice, pour moi, de tout ce qui s'est passé pendant ces trois mois d'apprentissage. C'était 15 jours à peu près avant le départ de ma mère. Je répète, le départ choisi. Et elle me dit, nous étions en train de manger des huîtres, parce que je l'ai beaucoup gâtée les derniers temps, et elle me dit, tu sais ma chérie, je ne sais pas dans quelle chemise de nuit je vais partir. Bon, des chemises de nuit, j'en ai beaucoup, mais tu vois, ma préférée, c'est ma vieille chemise de nuit avec les fleurs mauves, comme l'orchidée que tu m'as offerte ce matin. Va la chercher, tu veux, elle est dans la salle de bain. Je me suis levée, je suis allée chercher la chemise de nuit, je l'ai ramenée, et elle me dit, tu vois, elle est toute rapiécée. Quand même. Ça l'affiche mal, non, si on me trouve dans une chemise de nuit toute rapiécée. Et là, c'était tellement inouï qu'on a été prise d'un fou rire absolument incroyable. Puis après, on a ri du rire. Et je l'appelle d'ailleurs ce rire, dans la dernière leçon, le rire diamant. Et j'ai dit à ma mère, mais maman, tu te rends compte de ce que tu es en train de me faire faire là ? On rit à propos de la chemise de nuit que tu vas porter pour nous quitter, tes enfants ? Mais c'est incroyable. Mais elle me dit, oui, c'est pas banal. Je dis, c'est plus que pas banal, maman. C'est extrêmement important. Il faut que je l'écrive. Et elle me dit, si tu penses que c'est utile, oui, écris-le. Je te fais confiance. Et c'est comme ça qu'est né le désir d'écrire la dernière leçon, d'écrire à propos, justement, de cette démystification, en quelque sorte, de cette dédramatisation de la mort. Et elle n'est pas toujours possible. En l'occurrence, là, elle n'est pas toujours possible. On est parfois dans des situations dramatiques devant la mort. Mais quand elle est rendue possible, il faut comprendre pourquoi et comment.
Alors justement, c'est la question que je m'apprêtais à vous poser. C'est que possédait-elle que vous n'aviez pas pour pouvoir se projeter ainsi dans son après-mort ?
Elle était sage-femme. Et je pense que c'est un métier qui, fondamentalement, vous conduit à penser la naissance et la mort ensemble.
D'ailleurs, probablement, pendant très longtemps, on a opposé à la mort la vie, ou on a opposé la vie à la mort. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus subtil d'opposer la mort à la naissance. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire de se dire qu'il y aurait cette sorte d'espace avec à la fois une matérialité et une temporalité qu'on appellerait la vie, qui commence à la naissance et qui se clôt à la mort. Évidemment, je n'ai pas de scoop particulier aujourd'hui à vous donner sur est-ce qu'il y a un avant et un après, mais on peut se poser la question de la même manière en se disant où est-ce que j'étais, dans le sens ontologique du terme, où est-ce que j'étais avant ma conception, hein, avant que mes parents fassent l'amour, et où est-ce que je serai après ma mort. Donc dans ce sens-là, je trouve que c'est en effet très, très intéressant de que vous rappeliez cette position de sage-femme qui est une mise au monde, comme si
absolument.
Finalement... Alors le psy de bazar du dimanche que je suis aurait envie de dire, mais finalement, votre mère, j'espère que ça n'est pas blessant, toute sa vie, elle a cherché à s'accoucher elle-même. Sous-entendu, c'est tout ce qu'on cherche à faire, nous tous.
À s'accoucher elle-même et à accoucher les autres, surtout. Et surtout, sa dernière petite fille, qu'elle savait terroriser. Mais je reviens sur ce que vous disiez à l'instant. Moi, je pense que ce n'est pas un hasard si dans le vocabulaire de l'obstétrique... Et de la psychanalyse, on retrouve les mêmes termes.
Oui,
on
oui.
parle, de, par exemple, de délivrance, on parle du deuil, etc. Donc, je pense que c'est le lien entre la mort et la naissance est absolument évident, et y compris dans l'inconscient, hein, certainement. Alors, je voulais ajouter que, quand je disais « elle m'a accouchée », je pense que... En me mettant au travail comme elle mettait au travail ses femmes pour accoucher, elle a sans doute fait naître de moi une petite fille un peu moins effrayée par la mort. Je dis un peu moins. En tout cas, un peu moins effrayée par sa mort, par son départ. Suis-je mieux préparée pour la mienne ? Je n'en suis pas sûre. Mais en tout cas, pour sa mort. Et les gestes qu'elle a accomplis, tout le rituel qu'elle m'a fait faire, était un rituel... vraiment lié à une maïeutique, comme on la trouve dans l'accouchement des femmes. Et c'est d'ailleurs peut-être aussi pour cette raison que les femmes sont plus à même d'approcher les morts et la mort que les hommes. C'est une question que j'ai posée à ma mère. Pourquoi ? Et elle me disait, mais parce qu'elles mettent au monde des enfants.
En tout cas, il me semblait qu'il y avait... deux choses que j'avais envie de retenir. Je repensais à cette phrase de Lévi-Strauss qui dit « Le rite, c'est ce qui assure la continuité. Hein. » Donc on sent bien ici que dans cette sorte de pré-deuil qu'elle vous proposait, hein, parce que moi je vous serais peut-être pas obligatoirement sur la question vraiment du deuil, parce qu'on pourra revenir peut-être là-dessus, mais de ce pré-deuil proposé et partagé, hein, ce qui est quand même tout à fait étrange, hein, on sait en général que dans l'accompagnement, les deuils anticipés sont souvent du côté du pathologique. Alors vous le présentez évidemment pas du côté du pathos, de la souffrance, mais de quelque chose qui a été porteur de vie. Donc on voit bien ici le sens du rituel, et on voit bien ici que peut-être ce que vous avez enfanté tous les deux, c'était votre écriture, au fond.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, à propos de cet enfantement, je parle aussi, à un moment donné, dans la dernière leçon, de la posture des morts. Et je dis à ma mère, puisque je lui parle après sa mort, les morts, ils sont près de nous, quoi. Et par exemple, François Châtelet, mon mari, je le sens parfois debout derrière moi, penché sur ce que je fais, et c'est si intense à certains moments qu'il me semble sentir son souffle sur mon cou, ce souffle qui lui a manqué pour vivre puisqu'il est mort de ça. Et toi, où vas-tu te mettre, ma mère ? Dis-je. Et après son départ, j'ai eu le sentiment que je la portais. J'ai senti dans quelque chose qui s'était comblé dans mon ventre. J'ai l'impression que je la portais. Et j'ajoute, en plus, je me souviens dans la dernière leçon, et ce qui est merveilleux, c'est que je ne te perdrai jamais cette fois, puisque je n'accoucherai pas de toi.
Et j'ajoute juste pour nos éditeurs qui n'ont pas la vidéo que vous avez mis votre main sur votre ventre.
Oui, bien sûr, bien sûr. Mais je crois que les morts sont aussi dans nos corps, pas seulement dans notre imaginaire.
En tout cas, le deuil, si on se dit que le deuil, c'est tout le travail d'intériorisation de l'autre, alors il me semble qu'en effet, il y a bien cette sorte de présence. Alors pour vous, c'est peut-être dans votre utérus symbolique ou dans votre cœur, enfin on dit c'est quelque chose comme ça, qu'en effet vous portez ces deux personnages que vous évoquez là.
Hein. Alors on saisit comment, dans ce que vous dites l'un et l'autre, une expérience ou les expériences que vous connaissez peuvent apprendre quelque chose de la vie dans l'approche de ce qui est une énigme, l'énigme par excellence sans doute de la mort. Comment peut-on regarder cette énigme aujourd'hui dans le traitement qu'elle a dans nos sociétés? Parce que on a quand même le sentiment que dans nos sociétés, la mort a assez peu de place aujourd'hui. Même si, vous le disiez tout à l'heure, la belle affaire, ça fait longtemps qu'on meurt.
C'est un euphémisme, mon cher Olivier. Ouais. Elle n'a pas peu de place, elle est déniée.
Et là, je précise bien, attention, il y a la mort et le mourir. Il faut bien qu'on différencie ces deux choses. Parce que les deux sont exclus, voire les lacaniens que je ne suis pas diraient fort clos, c'est-à-dire dans un espace qui n'est pas du tout accessible. Hein, voilà. La mort, dans une certaine mesure, elle a sa réalité. C'est pas la fin de l'année 2015 ou toute l'année 2015 qui risque de nous faire oublier que la mort est là. C'est la mort de l'autre, c'est la mort des autres, dans une forme de distance qui, bien évidemment, de temps en temps, se change en proximité douloureuse et terrifiante. Mais fondamentalement, c'est le mourir qui est exclu. C'est le mourir qui n'est plus inscrit dans notre culture. Voilà, et surtout dans notre expérience, pour reprendre ce que vous
bien
disiez
sûr.
Tout à l'heure.
Alors que ça l'est dans certaines autres cultures.
Voilà, et que c'est fondamental parce que finalement c'est toujours le mourant qui va venir me dire à moi, qu'as-tu fait de ta vie ?
Radio Grand Ciel, 106.8 à Chartres.
Lorsque vous parlez ainsi, est-ce que vous prenez en compte, et en particulier Noël par rapport à votre maman, est-ce qu'elle a souffert en fait ? Est-ce qu'elle a souffert physiquement ?
En mettant fin à ses jours?
Oui.
Je ne pense pas, parce qu'elle savait comment faire.
Donc c'était...
Et d'ailleurs, c'est toute la problématique que je voudrais soulever. C'est qu'elle, elle savait parce qu'elle était sage-femme.
Oui.
Donc elle a écrasé ses 60 cachets. Elle savait quels cachets. Et elle les a avalés avec un yaourt. Voilà. Donc je pense qu'elle a même eu le temps de laver son pot de yaourt. Pas que nous ayons à le faire. Et puis, elle s'est endormie très vite. Donc, elle n'a pas souffert en mourant, je pense. Mais si vous parlez de sa souffrance psychique, qui a précédé sa mort, elle était très, très, comment dire, très dominée, je dirais. Parce que ma mère disait « Je souffre à l'idée de vous quitter, mais je ne souffre pas à l'idée de partir, puisque c'est maintenant que je veux partir. » Et le volontarisme de son geste l'aidait, d'une certaine manière, dans son acte stoïcien presque,
ouais,
à accomplir ce geste, ou à aller vers ce geste, avec beaucoup, beaucoup de sérénité. La préparation de sa mort, d'une certaine manière, de sa propre mort, l'a aidé aussi à n'avoir pas peur de mourir. Je pense qu'elle n'avait pas peur de mourir. Elle avait peur de nous quitter. Voilà. C'était ça, sa peur. Et elle avait peur aussi, dans tous les mois qui ont précédé et les années qui ont précédé, de ne pas pouvoir accomplir ce geste. Et l'obsession, pour moi, c'était de lui dire pendant ces 3 mois, « Mais es-tu sûre que c'est maintenant ?» Et elle disait, « Mais oui, ma chérie, je suis sûre, parce qu'après, ce sera trop tard. » Ça voulait dire quoi? Oui. Ça voulait dire que comme elle devait faire elle-même le geste, et on revient là peut-être à un sujet plus sociétal de la nécessité pour moi de faire quelque chose vers le suicide assisté en France, si comme elle devait faire elle-même ce geste, elle craignait de n'avoir plus la force physique et psychique de l'accomplir, et elle a dû donc l'accomplir un peu trop tôt. Elle aurait pu rester un petit peu plus, mais elle n'avait pas le choix, pour le coup. Ce qui me fait dire que donner le droit de mourir, si on pouvait l'obtenir dans une législation plus ouverte que celle que nous avons aujourd'hui, ne fait pas mourir. J'ajouterais même le paradoxe que donner le droit de mourir pourrait faire rester ces dizaines et dizaines de milliers de très vieilles personnes qui m'ont écrit, avec lesquelles j'ai échangé pendant des mois, et qui m'ont confirmé dans l'idée que c'est pas de mourir dont on a peur, c'est de mal mourir.
Est-ce qu'à votre avis, Noël Châtelet, justement, vous parliez tout à l'heure de déni de la mort dans nos sociétés, ce qui n'est pas le cas toujours, ce à quoi, au fond, votre expérience vous a fait échapper, puisque vous avez ritualisé cette question, comme le disait Dominique Desmichel. Enfin, est-ce que ce déni, aujourd'hui, met potentiellement des gens en souffrance, justement, de leur fin de vie? Est-ce que ça rend les choses plus compliquées? Est-ce que ça rend les choses plus difficiles? Est-ce qu'en gros, est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes face à un vrai problème de société dans notre manière d'envisager la fin de vie?
Je pense que Dominique pourrait nous en parler mieux, parce qu'il a, par son métier, il a approché tout ça, mais je trouve assez fou qu'on relègue la mort et qu'on meure dans les hôpitaux essentiellement maintenant, et surtout qu'on ne puisse pas avoir ces moments de partage et de dialogue qui apaiserait aussi bien celui qui va partir ou celle qui va partir que celui qui regarde partir. Et vous voyez, par exemple, cet apaisement, je ne l'ai pas vécu avec mon propre mari. J'avais 40 ans, j'étais pas prête. J'ai appris de cette expérience aussi. On a pu aborder la question de sa mort vraiment réelle que le dernier jour, et c'était, je trouve, beaucoup trop tard. J'aurais voulu parler avec lui bien plus tôt, bien plus en amont de sa mort. Et je me souviens que quand on voulait parler de la mort et qu'on voulait pleurer sur le fait qu'on allait se quitter, l'un ou l'autre disait, si on mettait la Traviata et on pleurait sur la musique, pour pas pleurer sur nous-mêmes, Mais je pense qu'il faut pleurer sur nous-mêmes et ensemble. C'est ça la solution. C'est ça la solution pour se retrouver quand on s'est quitté, en particulier. Moi, j'ai rencontré énormément de personnes, parce que j'ai beaucoup bourlingué hein, depuis 12-13 ans avec la dernière leçon, de personnes qui disent « mais moi, je vais souffrir toute ma vie de la mort de ma mère parce que je ne l'ai pas bien quittée. On ne s'est pas dit ce qu'on avait à se dire. On n'a pas partagé cette mort. » Vous êtes d'accord là-dessus?
Je crois qu'en tout cas, on revient bien à l'idée que la question, ce n'est pas vraiment la mort, c'est vraiment le mourir, c'est-à-dire la peur de mourir. Et j'aime bien ce que vous dites parce que je rappelle souvent combien l'angoisse est quelque chose qui est froid et qui sépare. Si vous croisez quelqu'un qui est angoissé spontanément, sauf si vous êtes, je ne sais pas, soignant par exemple, on va dire, vous allez changer de trottoir. L'angoisse, ça sépare. Et c'est froid. Tandis que le chagrin, c'est chaud.
Ça se partage.
Et ça rapproche tout de suite. C'est exactement l'inverse. Donc la possibilité, en effet, en accompagnant ce temps du mourir d'une structure, d'une capacité à faire du lien, d'une capacité à dire les émotions, à mon avis, ça fait que la question du suicide, dans la très très grande majorité des cas, ne se pose plus. Oui. Moi, j'ai bien envie de dire, hein, en préambule, deux choses qui sont très très opposées. La première, c'est que moi, mon travail, c'est essentiellement d'être psychanalyste, donc de recevoir des gens qui sont en souffrance psychique le plus souvent et qui ont parfois fait des tentatives de suicide et qui viennent avec cette question-là. Et dans mon expérience, le suicide, on ne se suicide jamais par courage, on ne se suicide jamais par lâcheté, on se suicide par désespoir. Hein. Et donc, pour moi, la question de l'accompagnement de ces personnes, c'est d'essayer d'élaborer quelque chose de ce désespoir pour qu'à la place du désespoir, il y ait un espoir qui leur appartienne et qu'eux seuls peuvent mettre en scène, bien évidemment, et mettre en sens. La deuxième chose, c'est que, in fine, de toute façon, quand l'autre décide, en particulier en fin de vie, que son choix, c'est de se suicider, je crois que toutes les fibres de mon être vont être ancrés dans cette intime conviction que c'est son désespoir qui le porte et que j'ai envie de l'accompagner vers de l'espoir, mais que si c'est son choix, je vais respecter son choix.
Moi, je voudrais revenir. Pardon, je vous laisse.
Et puis, la dernière chose qui, pour moi, est le fondement, c'est que je ne crois pas que le fait de mourir relève du conscient. Je pense que ça relève d'une globalité immense. Dans une approche jungienne, le conscient, c'est tout ce qui n'est pas inconscient, c'est-à-dire quelque chose d'immense, comme dans un iceberg où le conscient, c'est ce qui dépasse au-dessus de la surface de l'eau. Et puis il y a une énorme globalité qui renvoie à toute notre histoire, à toute notre identité, et puis toutes ces solidarités familiales, transgénérationnelles, et puis tout cet inconscient collectif qui, depuis 2 millions d'années, ou peut-être 3,8 milliards d'années, ou 14 milliards d'années. Et donc, je crois que le fait de mourir, ça appartient à cette globalité. Et donc, pour moi, il est juste d'attendre que cette globalité choisisse de se retirer de la vie. Dans le sens où, même si on peut penser que dans une certaine mesure, et je repense là à la sage-femme, l'enfant, dans une certaine mesure, décide du moment où il doit naître, je veux dire, il ne peut pas y rester 10 ou 15 mois parce qu'il fait froid dehors. Hein, au bout d'un certain temps, il faut qu'il sorte. Et puis que s'il décide, dans une forme de perspective ontologique, du moment où il sort du ventre de sa mère, c'est la globalité de son être qui décide, et pas son conscient. Donc il me semble qu'on peut faire cette symétrie à la fin, et pour ce qui pourrait me troubler, même si je respecte tout à fait le choix de votre mère et ce que vous en dites, et je trouve qu'il y a une très grande richesse dans ce que vous racontez, j'aurais eu envie, si je l'avais rencontré, de lui dire « peut-être madame, est-ce qu'il n'est pas plus juste d'attendre que cette globalité-là qui vous échappe, mais qui au fond vous fonde, vous dise « voilà, je me retire sur la pointe des pieds dans un espace où j'ai lâché quelque chose de ce qui m'évoque, même si ça a sa légitimité, une forme de maîtrise ?»
Alors, je ne dirais pas que ma mère s'est suicidée. Il ne s'agit pas d'un suicide. Parce qu'un suicide, justement, c'est quelque chose de violent, de barbare pour tout le monde. pour le suicidé et pour ceux qui le trouvent se suicider.
C'est bien important de le dire, ça, et de le rappeler. Hein.
Voilà, je le rappelle parce que dans les lettres que je recevais, il y avait ces appels au secours. Madame, votre mère, elle était sage-femme, elle savait. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait ? On se pend à la poutre du plafond, on se jette dans la rivière avec des pierres dans les poches. Aidez-nous, madame, donnez-nous la recette de votre mère. Toutes ces lettres, moi, m'ont littéralement pétrifiée. Et j'y ai répondu, non pas en donnant la recette, mais comme ça, par de très longues lettres. Jamais des mots comme ça, merci de votre envoi. C'était des lettres qui demandaient, d'une certaine manière, une réponse et une vraie réponse. Elle ne s'est pas suicidée puisqu'elle a choisi, de mourir. C'est-à-dire que elle ne pouvait pas attendre parce que attendre l'aurait mise dans une souffrance physique et psychique qu'elle ne voulait pas éprouver. Elle voulait partir debout. Elle avait 92 ans. Son corps la lâchait. Elle était atteinte de ce qu'on appelle les polypathologies de la vieillesse. Sa tête risquait de la lâcher aussi. En infirmière zélée qu'elle était, elle faisait chaque jour la liste de ce qu'elle pouvait, ne pouvait plus faire, puis de ce qu'elle pouvait encore faire. Elle s'était donné une limite à ce qu'elle pouvait endurer de la vie qui l'attendait. Et elle n'aimait pas du tout quand on lui disait, par exemple, « Mais vous savez... c'est peut-être simplement parce que vous êtes un peu déprimé. » C'est un peu la réponse que font beaucoup de médecins aux personnes qui disent « Non, moi, je veux partir à ce moment-là de ma vie. » C'est un choix philosophique. Oui. C'est une facilité de la part du médecin de dire « Vous êtes déprimé. » Et c'est tellement vrai que, comme plusieurs personnes le lui ont dit, quelques jours, quelques semaines avant son geste, je lui ai dit « Maman, qu'est-ce qui t'empêche de prendre du Prozac ?» Comme ça, tu feras la preuve que tu veux bien faire quelque chose si on dit que tu es déprimé. Puis en plus, ça te fera peut-être mourir encore plus agréablement. Voilà. Et elle en a pris. Elle en a pris pour faire plaisir aux autres. Oui. Mais elle n'en avait pas besoin, comment dire. Hein. Et donc, je n'appellerai pas le geste de ma mère un suicide. Et c'est très important de ne pas appeler suicide une mort choisie quand elle est choisie de cette manière-là. Et je pense qu'en effet, peu de personnes en France seraient prêtes à choisir cette mort-là. Mais le fait qu'on leur donne la possibilité de choisir, comme elle a fait, est de toute façon incroyablement apaisant. C'est apaisant de se dire qu'on pourrait partir quand on veut partir. C'est pour ça que je dis que faire mourir ne fait pas mourir, au contraire.
Est-ce que, justement, du côté de ce qu'on pourrait à ce moment-là appeler...
Donner le droit de faire mourir ne fait pas mourir, au contraire.
Oui. Est-ce que, du côté du suicide, en fait, souvent c'est caractérisé par un passage à l'acte violent qui n'est justement pas élaboré. Là, il y a de vraies différences tout de même, puisque elle y a pensé, elle l'a dit... Elle l'a parlé, elle a
mis en scène.
Emmené sa famille.
Mis en scène, parce qu'on parlait de mise en scène tout à l'heure. Mis en scène.
Oui, mais en même temps, il me semble une ombre derrière, je parle en général, hein, il y a une ombre qui serait l'idée suivante, ce serait qu'une vie indépendante, c'est celle qui fondamentalement donne du sens. C'est celle qui fondamentalement a de la valeur. Moi, je crois que c'est pertinent dans une certaine mesure, mais ça ne l'est pas dans une autre. Et j'aurais envie d'introduire là la question un tout petit peu compliquée à comprendre, mais je vais essayer de le dire de manière simple, qui est que je reviens un tout petit peu sur l'histoire. Pendant très très longtemps, l'histoire de la médecine a été marquée par le fait que, en gros, les médecins savaient pour les patients. Et il y avait cette attitude paternaliste qui était de dire... Ma petite dame, mon petit monsieur, et ce qu'il fallait surtout retenir là-dedans, c'est petit, moi je suis grand, je sais mieux que vous, voilà ce qui est bon pour vous.
Ce qui existe encore. Non, on n'en est pas sorti complètement.
Vous
en êtes sorti, Dominique, mais...
Oui, enfin, en tout cas...
Grande partie des médecins n'en sont pas sortis.
Le grand mouvement, en tout cas, des soins palliatifs, on pourrait reparler de sa psychogénéalogie, on pourrait dire peut-être c'est à un autre lieu, mais le grand mouvement des soins palliatifs, en tout cas, il me semble, a dépassé ça. Oui. Mais il a été porté dans ce retour, on pourrait dire, du refoulé par une survalorisation de l'autonomie. Et on oublie qu'il y a des gens vulnérables. Et je crois que c'est très très important de se dire que, dans une certaine mesure, on peut passer, les mots sont un peu compliqués, je vais les expliquer, on peut passer d'une hétéronomie subie à une hétéronomie choisie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'autonomie, évidemment, c'est une valeur. Et peut-être on pourrait dire que votre mère, elle l'a portée à son paroxysme, elle l'a portée à quelque chose qui pourrait être ou idéalisé, j'aurais pas envie de dire sublimé pour moi, je dirais plutôt idéalisé ou idéalisant, peut-être idéal, mais peut-être pas sublimé, dans le sens où j'aurais envie de penser, en général, je ne parle pas en tant qu'individu, parce qu'après, il n'y a que des histoires singulières, et il faut écouter les histoires singulières, accompagner les histoires singulières, puis vous savez, l'idée fondamentale des soins palliatifs, c'est le patient, il sait mieux que tout le monde. Et c'est lui, in fine, qui décide. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une confrontation, un dialogue, on peut dire qu'on n'est pas d'accord et qu'on a d'autres points de vue, mais on choisit ça. Dans ce moment-là, on peut se dire qu'on peut accepter cette vulnérabilité, accepter de devenir dépendant, accepter qu'il y ait quelqu'un qui vous torche les fesses ou qui vous fasse à manger, ou accepter qu'on ait une gastrostomie, c'est-à-dire qu'on vous nourrisse par l'estomac, parce que dans cette hétéronomie choisie, on n'est plus objet de l'autre et on accepte cette vulnérabilité. Donc je crois que c'est très très important pour que peut-être nos auditeurs entendent que la fin de la vie, peut-être comme disait, je crois, Charles de Gaulle, ça peut être de temps en temps un naufrage, mais que ce naufrage, il peut être simplement le temps de la régression et le temps où on retourne dans, j'ai envie de dire, parce que c'est tentant aujourd'hui, dans une sorte de ventre maternel, hein, pour reprendre l'image de la sage-femme. Et donc, pouvoir tenir cet espace-là d'une très très grande vulnérabilité et d'un lâcher-prise à l'opposé de cette maîtrise, c'est aussi une modalité de mourir qui me paraît tout à fait extraordinaire.
Oui, mais alors Dominique, effectivement, le lâcher-prise, donc la maîtrise qui est en jeu à faire ou à ne pas, ou à choisir tout simplement, n'élude pas la question que la souffrance n'a pas de sens. Alors qu'est-ce que fait la société par rapport à ce passif?
Je pense que c'est fondamental pour moi de dire que la souffrance, en effet, n'a pas de sens. Elle n'a pas de sens en soi. La douleur, comme la souffrance, c'est un signal. Que ce signal soit parce que je me suis peut-être fait une entorse de cheville et il faut que j'aille consulter, ou peut-être parce que je me suis fait une entorse de l'âme et qu'il faut aussi que j'essaye de mettre en sens quelque chose. La souffrance, elle n'a pas de sens, mais elle est potentiellement une puissance d'éveil. Parce qu'elle vient nous dire, en raison du signal dont elle est le témoin, elle vient nous dire quelque chose qui ne va pas.
Elle que est la une alarme, cheville, en quelque sorte.
Elle est une alarme, voilà, elle est un petit clignotant. Et que c'est ce qu'on fait de la souffrance qui peut servir à quelque chose. Sans certitude, mais ça peut servir. C'est que ce que l'on fait. La souffrance, je pense que ça ne sert à rien. Donc, par rapport à votre question, j'aurais envie de dire, dans cette part d'angoisse qui appartient à la souffrance, il y a une part qui sera de toute façon jamais partageable. C'est-à-dire celui qui meurt, il fait une expérience singulière, unique, et dont personne ne peut rien lui dire, puisque personne n'est revenu pour dire « t'inquiète pas, ne vous inquiétez pas, il y a quelque chose qui a du sens et ça peut faire de la vie de mourir ».
Something freedom doesn't give. I can't win or lose, I don't really have a choice. Democracy does not work even with only one voice. Something freedom doesn't give.
else and me with no one slowly tells the story of the man who sold his land. But here I'll stand waiting for someone to bring me down.
Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes.
Alors, du côté justement de ce respect là, du parcours de chacun dont vous parlez tous les deux, du côté aussi de la souffrance, il y a eu, dans les mois qui sont passés, les années passées, de grands débats autour de la loi Leonetti. Alors Noëlle Châtelet, vous avez été très présente dans ces débats. Qu'en est-il aujourd'hui de ce que dit la loi?
Je pense que la loi Leonetti terre, avec Alain Claës, laisse la plupart des Français, la majorité des Français, sur leur faim.
FIM.
Oui.
FIM, oui. FIM. Oui, vous avez raison. Et, non, mais je suis personnellement très, très désolée qu'on n'ait pas avancé plus sur la question de la fin de vie. Moi, je pense qu'il faut faire un effort énorme du côté des soins palliatifs qui ne concernent encore que 20% des demandes. Mais encore une fois, de donner le choix de mourir est un droit, républicain. Qui rejoindrait la devise républicaine de l'égalité, de la fraternité et de la liberté, et particulièrement de la liberté ultime. Je trouve dommage qu'on ne soit pas allé jusqu'à cela. Moi, c'est sur l'aide active à mourir que je me mobilise plus particulièrement, sans doute à cause de l'expérience que j'ai vécue avec ma mère, avec le sentiment que ça apaiserait beaucoup, beaucoup les Français. D'avoir cette possibilité sans pour autant les pousser au geste. Vous voyez, ça, bon, puisqu'on nous met en avant les dérives possibles, etc., sans pour autant les pousser au geste. Je pense qu'on a besoin d'avoir un petit peu moins peur, et je pense que la société est capable d'apporter une réponse à cette peur qui est à la fois individuelle et collective. Et de même qu'on n'a jamais pensé que l'IVG allait faire avorter toutes les femmes de France, je pense que l'interdiction volontaire de vie ou de vieillesse, l'IVV, comme ma mère l'appelait, ne pousserait pas à la mort ces dizaines et dizaines de personnes qui m'ont appelé pour la réclamer.
Moi, je crois que la sédation profonde est un élément de réponse importante. Cette sédation profonde, elle a beaucoup d'ombres. Je pense qu'on n'a pas le temps aujourd'hui de parler de toutes les ombres de cette loi-là, et en particulier de cette sédation profonde. Je rappelle que cette sédation profonde, elle est proposée avec un fondement principal qui est justement cette peur, cette anxiété autour du mal mourir. Je vais reprendre votre mot parce qu'il me paraît très, très juste. Et donc, les gens ayant très peur de souffrir ou d'avoir une angoisse terrible ont la possibilité de demander, de réclamer directement s'ils sont conscients, indirectement par le biais des directives anticipées ou de la personne de confiance ou de leur famille ou de leurs proches, le fait qu'on leur donne cette sédation. Cette sédation vise à ce qu'ils ne ressentent plus le vécu douloureux ou le vécu angoissant, quitte à ce que la mort soit un petit peu plus rapide ou un peu avancée. Je crois que fondamentalement, puisque la question du mal mourir est à l'origine des grandes peurs, des grandes anxiétés, des grandes angoisses de notre société, il me semble que cette loi a cette justesse. Je rappelle d'ailleurs à ce propos-là que la grande majorité des gens qui sont dans une demande de geste euthanasique et qui arrivent dans une unité de soins palliatifs avec un accompagnement, une écoute, c'est-à-dire la possibilité de vivre ce relatif bien mourir, ne demande plus de geste euthanasique. Hein. Donc ça va en tout cas dans le sens que vous disiez, oui. C'est-à-dire il y a quelque chose de l'ordre de cette possibilité. Moi, je ne dirais pas de pouvoir choisir le moment de sa mort, mais le pouvoir surtout ne pas être confronté à quelque chose qui est terrible. Ça, c'est tout à fait fondamental.
Oui, alors donc, écoutez, je pense que on a bien compris, on a bien ressenti surtout qu'il y a une sacralité de fin de vie, un temps qui a une densité de vie très importante et pas uniquement religieusement. À quoi tient la dignité dans le choix d'une fin de vie, socialement?
Sur la notion de dignité, moi j'aurais envie de dire qu'il y a deux perspectives dans la dignité. Il y a une dignité qu'on pourrait dire ontologique, qui est pour moi fondamentalement la mienne, c'est-à-dire que n'importe quel être vivant, il a une dignité qui lui appartient, intrinsèque, qui ne dépend de rien du tout, qui dépend juste du fait qu'un jour il est né et qu'il a le droit à cette dignité et que quoi qu'il arrive, il est toujours digne de vivre. Moi, je reçois en plus comme psychanalyste des gens qui ont un suivi psy obligatoire dans le cadre de problèmes juridiques. Et donc, de temps en temps, on est confronté à des situations qui sont quand même très lourdes. J'accueille ces gens-là en les considérant comme étant dignes d'être écoutés et accompagnés. Et puis on pourrait dire qu'il y a une autre dignité qui est une dignité utilitariste. Hein. On ne va pas reprendre tous les grands concepts autour de l'éthique et de la morale parce que ça c'est compliqué. Et puis peut-être il y a des gens plus compétents sûrement même que moi. Mais dans cette dignité utilitariste, au fond, cette dignité est fondée sur la subjectivité. C'est-à-dire à partir du moment où moi j'ai le sentiment de ne plus être digne, alors je m'octroie le droit de mourir. Vous voyez, donc on est dans deux perspectives de dignité, une dignité ontologique et une dignité utilitariste.
Qui pourrait prétendre définir la dignité de quelqu'un? Je pense en effet que c'est une définition impossible. Chacun a soi-même, d'une certaine manière, à la formuler, cette définition, et à l'affiner, y compris à revenir sur elle. Parce que je ne crois pas, moi non plus, indigne d'être vulnérable et de l'accepter. J'aurais pu mettre des couches à ma mère. Mais elle ne voulait pas avoir de couches. Elle ne voulait pas peser sur ses enfants ni sur la société. Elle voulait partir debout, en citoyenne libre. Et sur l'association au droit pour mourir dans la dignité, dont j'ai rejoint le comité de parrainage, qui est une association qui a été co-créée par mes parents, hein, il y a 25 ans, transmission oblige. Personnellement, j'aurais pas mis le mot dignité dans le terme de l'association. J'aurais appelé ça plutôt l'association au droit pour choisir sa mort. Parce que le mot dignité rend le débat déjà fait d'avance, c'est-à-dire que nos opposants nous disent « Ah bon, alors c'est indigne d'être sur une chaise roulante ?» C'est pas du tout la question.
C'est presque même un hold-up sémantique.
Oui, c'est un hold-up. Voilà. Moi, ce mot me dérange toujours. Voilà. Ce mot me dérange toujours parce que je le trouve tellement... Cette définition est d'ordre tellement intime que je pense qu'on n'a pas le droit de légiférer sur ce terme-là.
Bien, mais écoutez, je vous remercie chaleureusement de votre participation tous les deux. Elle a été très riche et je pense que les auditeurs en seront reconnaissants. Je vous dis donc à la prochaine émission, qui sera l'émission numéro 10. Et bonne continuation.
Merci, au revoir.
Vanity is vanishing. Singing is the saddest thing. Better say a long farewell before you know this song too well. Are you still with me? You're gonna miss me. Are you still with me? You're gonna miss me. Thank you.
till I disappear into the lake of missing tears.